et lire les cinq premiers paragraphes. Le but quand nous avons dépassé les savoirs, alors nous avons la connaissance. La raison fut une aide. La raison est l'entrave. Quand nous avons dépassé les velléités, alors nous avons le pouvoir. L'effort fut une aide, l'effort est l'entrave. Quand nous avons dépassé les jouissances, alors nous avons la béatitude. Le désir fut une aide, le désir est l'entrave. Quand nous avons dépassé l'individualisation, alors nous sommes des personnes réelles. Le moi fut une aide, le moi est l'entrave. L'humanité, alors nous serons l'homme, l'animal fut une aide, l'animal est l'entrave. C'est le même principe exprimé dans toutes les activités ou tous les aspects de l'être. Et l'explication que je vous ai donnée la dernière fois pour les deux premiers est valide pour les trois suivants. Il est évident que pour sortir de l'état d'inconscience originelle, le désir était indispensable. Car sans désir, il n'y aurait eu aucun éveil d'activité. Mais une fois qu'on est né à la conscience, ce même désir qui avait aidé à sortir de l'inconscience empêche de se libérer des entraves de la matière et de s'élever à une conscience plus haute. Il en est de même pour l'ego, le moi. Pouvoir passer un plan supérieur, il faut d'abord exister. Et pour exister, il faut devenir une individualité consciente, séparée. Et pour devenir une individualité consciente séparée, l'ego est indispensable, autrement on reste mélangé à tout ce qui vous entoure. Mais une fois que l'individualité est formée, si l'on veut monter à un degré supérieur et avoir une vie spirituelle, si l'on veut même devenir simplement une humanité supérieure, les limitations de l'ego sont les pires entraves et il faut surpasser l'ego pour entrer dans la vraie conscience. Et enfin, pour la vie ordinaire, élémentaire de l'homme, toutes les qualités qui appartiennent à l'animal, spécialement ce qui concerne le corps, étaient indispensables. Autrement, l'homme n'aurait pas existé. Mais une fois que l'homme est devenu un être conscient et mental, tout ce qui l'attache à l'humanité, à son origine animale, devient nécessairement un empêchement au progrès et à la libération de l'être. Ainsi, pour tout le monde, excepté pour ceux qui sont nés libres, et ce cas-là est évidemment très rare, pour tout le monde, cet état de raison, d'effort, de désir, d'individualisation et de constitution physique solide et équilibrée sont indispensables pour commencer jusqu'au moment où on est devenu un être conscient et où il faut abandonner toutes ces choses pour devenir un être spirituel. Voilà ce qui est expliqué ici. Dans les aphorismes suivants, il donne, pour ainsi dire, la méthode pour réaliser ce dont il parle dans les premiers aphorismes. Maintenant, nous verrons ça la prochaine fois. Mais aujourd'hui, si quelqu'un a posé une question concernant le sujet.
Quand est-ce qu'on peut dire qu'on est conscient?
C'est toujours une question relative. On n'est jamais tout à fait inconscient, on n'est jamais complètement conscient. C'est un état progressif. Mais il y a un moment où, au lieu de faire les choses automatiquement, poussé par une conscience et une force qui, justement, dont on est tout à fait inconscient, il y a un moment où on peut observer ce qui se passe en soi-même, étudier les mouvements, trouver leurs causes et en même temps commencer à avoir un contrôle d'abord sur ce qui se passe au-dedans de nous et puis après sur l'influence jetée du dehors sur nous et qui nous fait agir au début d'une façon tout à fait inconsciente et presque involontaire. Mais petit à petit, de plus en plus consciente, et la volonté peut s'éveiller et réagir. Alors, à ce moment-là, au moment où il y a une volonté consciente qui est capable de réagir, on peut dire « je suis devenu conscient ». Ça ne veut pas dire que c'est une conscience totale et parfaite, ça veut dire que c'est le commencement. Quand on est capable d'observer, par exemple, toutes les réactions dans son être et d'avoir un certain contrôle sur elles et de laisser agir celles que l'on approuve et de contrôler, d'empêcher, d'annuler celles que l'on désapprouve. Aussi, il faut avoir pris conscience en soi de quelque chose qui ressemble à un but ou à une raison d'être ou un idéal que l'on veut réaliser, quelque chose d'autre que le simple instinct qui vous pousse à vivre sans que vous sachiez ni pourquoi ni comment. C'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'on est conscient. Mais ça ne veut pas dire qu'on est parfaitement conscient. Et d'ailleurs, cette perfection-là est tellement progressive que je pense que personne ne peut dire qu'il est parfaitement conscient. Il est en voie de devenir parfaitement conscient, mais il ne l'est pas.
Comment
est
cet état quand on a dépassé toutes les jouissances?
Toutes
les jouissances.
Eh bien, c'est justement un état sans désir où on vit dans un... Il l'explique après. Dans un ananda qui n'a pas de cause, qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure ou intérieure, qui est un état qui permanent et qui ne dépend pas des circonstances de la vie, qui n'a pas de cause. On est dans l'ananda parce qu'on est dans l'ananda. Et en fait, c'est simplement parce qu'on a pris conscience de la réalité divine. Mais on ne peut sentir l'ananda que quand on n'a plus de désir. Si on a des désirs, tout ce que l'on sent, ce sont des plaisirs ou des jouissances, mais ce n'est pas l'ananda. Et l'ananda est d'une nature tout à fait différente et ne peut se manifester dans l'être que quand les désirs sont abolis. Tant qu'on est un être de désir, on ne peut pas sentir l'ananda. Même si une force d'ananda descendait, elle serait immédiatement falsifiée par la présence des désirs. J'ai ici une question qui se réfère à ce que nous avons dit la dernière fois sur l'effort, l'effort personnel. Et j'ai reçu cette question. Est comme ceci. Dans la vie intérieure, pourquoi arrive-t-il des instants où l'on ne peut plus faire un effort conscient? Et si on l'impose, des éléments de la nature se révoltent, ou bien tout dans l'être semble se pétrifier? L'effort devient la répétition mécanique de mouvements passés. Que doit-on faire à ces périodes? Si, c'est très bien observé. Ce qui n'est pas mentionné ici, c'est la nature de l'effort. Et c'est un certain genre d'effort qui amène ce résultat décrit, qui est ou une révolte ou une sorte de pétrification, vraiment. Quelque chose qui devient absolument insensible et irresponsible, qui ne répond plus du tout à cet effort. C'est quand l'effort est d'une nature presque exclusivement mental et qu'il est tout à fait arbitraire, dans le sens qu'il ne tient aucun compte de l'état dans lequel se trouve le reste de l'être, qu'il a son idée à lui, sa volonté à lui, et sans aucune considération pour le reste de l'être, il impose cette volonté à l'être dans son ensemble. C'est généralement ça qui produit cette révolte ou cette pétrification. Et la seule chose à faire, c'est justement de tranquilliser le mental, et c'est le moment de faire un mouvement de don de soi, paisible, tranquille et confiant. Si on fait ce mouvement de don de soi, d'abandon à la volonté divine, toute la tension provenant de l'effort, prématuré, on pourrait dire, ou inconsidéré, toute la tension provenant de cet effort cède. Il y a une détente dans l'être, et justement le progrès qu'on ne pouvait pas faire dans cet effort purement mental, généralement se produit d'une façon presque automatique par le fait qu'on s'est détendu dans une confiance et un don à la volonté divine. Et alors, la suite est comme ceci. À certains autres moments, on a l'impression de ne faire aucun effort, mais seulement de sentir la présence d'une conscience qui fait que dans plusieurs circonstances de la vie quotidienne se trouve un moyen de progrès. On se demande alors ce que c'est que l'effort et quelle est sa valeur. Ce que nous appelons effort n'est-il pas un mouvement trop mental? C'est justement ce que je viens d'expliquer, ce qui prouve que l'observation est très correcte. C'est une décision arbitraire du mental, qui naturellement étant arbitraire et pas conforme à la vérité des choses, elle crée des réactions mauvaises. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faille jamais faire un effort, mais il faut que l'effort aussi soit spontané. De même que je vous disais une fois que pour que la méditation soit efficace, il faut que ce soit une méditation spontanée qui se saisisse de vous plutôt que vous ne faites effort pour l'avoir. Eh bien, l'effort, cette espèce de tension de la volonté dans l'être, doit aussi être une chose spontanée et pas le résultat d'une décision mentale plus ou moins inopportune. Autre question? Non? Personne n'a rien à dire? Non? Plus rien?
Mais entendons, dépenser le mental. Si on cesse le mental agir, immédiatement, l'influence de l'eau n'arrive pas quelque part. Alors pendant cette période, qu'est-ce qu'il faut faire? On devient comme un fou.
Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je ne comprends pas.
Si on cesse le mental agir, si on
Si on laisse le mental agir, pourquoi? Je ne comprends pas là. Je ne comprends pas votre question. Vous n'avez pas dit au commencement quand on a dépassé le mental?
Pour dépasser le mental,
laisser le mental agir. Ah oui, ça c'est la théorie que pour dépasser les désirs, il faut laisser les désirs se réaliser.
Cesser le mental agir.
Laisser.
Cesser.
Oh mais. On ne peut pas cesser le mental agir. C'est pas français.
Arrêter l'action du mental.
Hein?
Arrêter l'action du mental.
Voilà. Ça, c'est comme ça qu'il aurait fallu demander. Alors, arrêter l'action du mental. C'est ça le moyen.
Je demande.
Naturellement.
Alors,
mais ça, c'est déjà suffisamment difficile. Alors quoi? Qu'est-ce que vous demandez?
Quand on arrête le raisonnement, alors immédiatement, si quelque chose d'où on n'arrive pas, alors pendant cette période, quelque part, ça peut
durer. On agit comme un fou. Alors il vaut mieux ne pas arrêter la raison tant qu'on n'a pas dépassé quelque chose, cet état-là.
C'est-à-dire, dans la condition de vie telle qu'il est, est-ce possible
d'être déraisonnable? Malheureusement, ça arrive très souvent. Est-ce qu'il est possible de ne pas référer à la raison? Ce n'est possible que quand vous avez dépassé l'activité mentale. Ce n'est possible que quand vous avez fait un surrender, un don de vous-même total. Ce n'est possible que quand vous n'avez plus de désir. Tant que vous avez des désirs, que vous avez un ego et que vous avez une volonté propre, vous ne pouvez pas abandonner la raison parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous deviendriez déséquilibré et peut-être fou. Ce qui fait que la raison doit être la maîtresse jusqu'à ce qu'on ait dépassé l'état où elle est utile. Et comme j'ai dit, tant qu'il y a un ego, et tant qu'il y a des désirs, et tant qu'il y a des impulsions, et tant qu'il y a des passions, et tant qu'il y a des préférences, et tant qu'il y a des attractions et des dégoûts, etc., tant que toutes ces choses sont là, la raison est tout à fait utile. J'ajouterai en plus qu'il y a une autre condition qui est tout à fait indispensable pour ne plus avoir recours à la raison, c'est de n'avoir aucune porte et aucun élément ouvert aux suggestions du monde adverse. Parce que si vous n'êtes pas complètement délivré de l'habitude de répondre aux suggestions adverses, si vous abandonnez votre raison, alors vous abandonnez aussi la raison, c'est-à-dire le bon sens. Et vous commencez à agir d'une façon incohérente qui peut finir par être tout à fait déséquilibrée. Eh bien, pour être libre des suggestions et de l'influence adverse, il faut que vous soyez exclusivement sous l'influence du divin. Maintenant, vous voyez le problème. Il est un petit peu difficile. Ce qui fait que, à moins que vous ne soyez en présence d'un être tout à fait illuminé, transformé, il vaut toujours mieux recommander aux gens d'agir selon leur raison. Ça peut être une limitation, c'est en effet une grande limitation, mais c'est aussi un contrôle. Et ça vous empêche de devenir des demi-fous comme il y en a beaucoup trop dans le monde. La raison est une personne très respectable. Comme toutes les personnes respectables, elle a ses limites et ses partis pris. Mais cela ne l'empêche pas d'être d'une grande utilité. Et cela vous empêche de faire des folies. Il y a beaucoup de choses que si on n'avait pas la raison, on ferait et qui vous mènerait tout droit à votre perte et pourrait avoir des conséquences tout à fait fâcheuses. parce que votre meilleur moyen de discernement jusqu'à ce que vous ayez atteint les régions supérieures, c'est la raison. Quand on n'écoute plus la raison, on peut être conduit vers toutes sortes d'absurdités. Naturellement, ce n'est ni l'idéal ni le sommet. C'est seulement une sorte de contrôle et un guide pour se conduire dans la vie qui empêche les extravagances, les excès, les passions désordonnées et surtout ces actions impulsives qui peuvent vous mener vers l'abîme. Il faut être très sûr de soi, très libéré de l'ego et très parfaitement abandonné à la volonté divine pour pouvoir en sécurité se passer de la raison.
Quelquefois, il est difficile de distinguer entre les fausses raisons et les vraies raisons.
Ah, mais non, vous jouez sur les mots. Ce mot-là, dont vous vous en servez là, ça a tout à fait un autre sens que la raison. Tout à fait. C'est deux choses tout à fait différentes. La raison est une qualité de discernement. Vous parlez des raisons que vous vous donnez à vous-même pour faire une chose ou une autre. Ça, ce sont des excuses que le mental se donne. Mais le sens du mot raison, là, est tout à fait différent. C'est pas du tout le même mot, quoi qu'il se prononce et s'écrive de la même manière. Vous pouvez voir dans votre dictionnaire, il vous donnera deux définitions tout à fait différentes du mot raison. Les raisons qu'on se donne, c'est-à-dire les excuses ou les explications qu'on se donne, sont toujours, toujours colorés d'égoïsme et d'un besoin de se donner l'illusion que, justement, on est un être raisonnable. C'est 99 fois et demi sur 100, c'est le moyen de se convaincre qu'on est très bien, que ce que l'on fait est très bien, que ce que l'on sent est très bien, que ce que l'on pense est très bien. C'est pour vous donner l'impression que vous êtes vraiment tout à fait satisfaisant. Alors, quoi que ce soit que vous fassiez, si vous commencez à réfléchir, vous vous donnez, mais certainement j'ai fait ça parce que c'était comme ça, mais voilà la bonne raison. J'ai senti comme ça, mais c'est à cause de ça, c'est une excellente raison, et ainsi de suite. Mais ça n'a rien à faire avec être raisonnable, au contraire. C'est un excellent moyen de se tromper soi-même et de s'empêcher de faire des progrès. C'est pour se justifier à ses propres yeux que l'on trouve des raisons pour ce que l'on fait. D'ailleurs, ce sont toujours des raisons qui vous blanchissent et qui noircissent les autres. C'est le moyen, n'est-ce pas? Ce qui vous arrive, c'est la faute des circonstances. Si vous avez fait une faute, c'est la faute des autres. Si vous avez une mauvaise réaction, ce sont les autres qui sont responsables, etc., etc. Vous sortez blanc comme neige du jugement de votre mental. C'est tout.